8h24, je dois vous dire que j'anticipais ce moment-là. On lui a parlé beaucoup au printemps dernier et il m'a fait vibrer, il m'a fait frémir, il m'a fait presque pleurer. C'était désolant, la COVID-19, les hôpitaux, souvenez-vous, à New York, où on entassait les morts dans des conteneurs à l'extérieur. Lui, médecin à l'intérieur, puis voyait des gens mourir. Il était responsable d'un hôpital downtown New York. Là. C'est incroyable. Et là, au cours de l'été, je me suis rendu compte que Dr. Julien Cavanagh est maintenant du côté de Boston. Il est avec nous ce matin. Comment allez-vous, docteur?
Bonjour, Michel. Ça va bien, merci.
Comment ça, Boston? Vous êtes rendu à Boston? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était prévu depuis très longtemps, en fin de compte, ce poste, ce mouvement de carrière. C'était une décision qui a été prise, qui était décidée depuis février 2019. C'est-à-dire, on a l'impression que c'était au 14e siècle, hein. Mais voilà, donc c'était prévu comme ça et ça devait se rentrer en application en juillet. Donc voilà, c'est fait.
Content de vous parler vraiment ce matin parce que vous amenez une perspective qui est différente. On est en pleine pandémie, dans des contextes totalement différents d'un côté et de l'autre. Vous avez vécu l'horreur, je pense, à New York. Est-ce que c'est moins pire à Boston? Comment vous pouvez décrire la situation?
Les situations à Boston et à New York, elles sont très similaires. Les deux villes ont été frappées de plein fouet par la première vague. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de New York parce que la population, le bassin de population est plus grand et il y a plus de monde. Mais en proportion, Boston a été touché vraiment de plein fouet en mars-avril. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un confinement assez strict de la population. La population a vraiment compris la gravité de la situation avec la COVID. Et au fur et à mesure de l'été, on a eu un déconfinement très, très, très progressif avec l'idée qu'il fallait adapter la réponse en fonction des chiffres de contamination qu'on voyait, un peu en ouvrant ou en fermant les vannes en fonction de ce qu'on voyait dans le taux de positivité des tests, le nombre de personnes qui étaient hospitalisées, etc., etc. Et ce qui fait que même si aujourd'hui les chiffres augmentent, on voit très clairement une augmentation du nombre de personnes qui sont positives, on a une petite augmentation du nombre de personnes hospitalisées, mais pour l'instant, on tient le coup, on n'est pas frappé de plein fouet par cette deuxième vague comme par la première, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le reste du pays.
Vous étiez en charge d'une urgence à New York. Vos tâches maintenant du côté de Boston sont lesquelles?
Alors, je reviens à ma première passion, mon premier travail, qui est la neurologie, mais en particulier la neurologie auto-immune et la neurologie infectieuse, c'est-à-dire quand les maladies infectieuses s'attaquent au système nerveux, mais aussi quand le système immunitaire s'attaque au système nerveux. Et d'une certaine façon, je reste très à gérer la COVID, mais on est en train d'essayer maintenant de se préparer aussi à l'étape d'après, qui va être d'accueillir ces patients qui ont des symptômes neurologiques prolongés longtemps après leur infection par la COVID. Donc on est en train de monter une consultation pour accueillir ces patients-là et essayer de comprendre comment il se fait qu'il y a des conséquences neurologiques à long terme. Et puis, je reste sur le pied de guerre. S'il y a de nouveau un redéploiement et qu'il faut que je retourne en unité COVID, prendre des patients en charge, évidemment, j'irai.
Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de critiques sur la gestion de la crise, de la pandémie. On a vu ça notamment là, lors des débats des dernières élections. C'était incroyable. Donald Trump, l'ex-président, ou le président encore en poste officiellement, mais qui va quitter son poste, souhaitons-le, bientôt. Monsieur Trump a eu la COVID. Il a dit toutes sortes de choses. Il a propagé. Jusqu'à quel point aux États-Unis, là, vous pensez, vous, comme neurologue, comme intervenant de première ligne auprès des gens qui ont été atteints de la COVID, vous pensez que ça a été néfaste, la vision du président au cours de cette pandémie aux États-Unis?
Oui, ça a été extrêmement néfaste parce qu'il n'y a pas eu une réponse unifiée. du fédéral et des États. Vous voyez, au Québec, au Canada, vous avez une réponse fédérale qui, dans l'ensemble, est très en application dans le même esprit que la science de santé publique, la science académique, et dans l'ensemble, même si ça chicane un peu à droite, à gauche, les premiers ministres des provinces, ils appliquent les recommandations de santé publique. Ici, on n'a pas du tout eu ça. On a eu des réponses tout à fait variées d'un extrême à l'autre de la part des gouverneurs. Et Trump, lui, a dit « moi, je m'en occupe pas, c'est une affaire à gérer par les gouverneurs ». Il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça en disant « après tout, c'est vrai que peut-être que c'est l'affaire des gouverneurs ». Simplement, il y a tout un tas de choses qui auraient dû être faites directement par le fédéral. Par exemple, les chaînes d'approvisionnement en matériel médical, tout ce qui était les masques, les jaquettes, mais aussi un certain nombre d'équipements médicaux lourds, on s'est retrouvé, les différents États, même les différents hôpitaux, à devoir aller sur les marchés pour acheter des produits qui souvent d'ailleurs étaient presque tout le temps d'ailleurs fabriqués à l'étranger, en Asie. Et donc, un gouverneur passait une commande, et puis il y avait un autre gouverneur qui passait une commande à un prix supérieur, et puis les prix montaient, comme ça, personne n'était livré. Si Trump avait dit « moi, j'achète le matériel médical à l'étranger et je le distribue aux gouverneurs qui en ont besoin », on aurait gagné beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il ne s'est absolument pas occupé de ça. Il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais citer comme ça.
La vaccination, vous y croyez? M. Trump disait même au mois de novembre, il était pas loin, remarquez bien, parce que là, on apprend qu'il y a des vaccins qui sont prêts, qui sont, semble-t-il, efficaces. Il faut organiser la distribution, la vaccination massive. Comment vous voyez la sortie de cette pandémie-là? Est-ce que vous l'envisagez déjà ou...
Ça va être très long, mais effectivement, les nouvelles au niveau du vaccin sont extrêmement encourageantes. Dans toutes les réponses qui n'ont pas été apportées par la Maison-Blanche dans cette crise, la vaccination est peut-être la seule chose qui a été à peu près correctement approchée, puisqu'il y a eu une initiative pour apporter des fonds à des petits laboratoires qui avaient des technologies très prometteuses pour leur permettre de développer leur vaccin, mais surtout de gagner du temps en commençant à produire les doses avant qu'on sache si véritablement le vaccin marchait et le vaccin ne causait pas d'effets secondaires. Ça veut dire que l'État prenait le risque de jeter des centaines de millions de doses à la poubelle si d'aventure ça ne marchait pas. Là, on s'aperçoit que les vaccins sont quand même très prometteurs. Je lis les données qui arrivent les unes après les autres. Vous savez, il y a un des laboratoires qui s'appelle Moderna, qui est basé ici à Boston. D'ailleurs, un Français qui est le président-directeur général. Donc, il y a un peu de francophonie là-dedans. Les données sont très encourageantes. Dans l'étude Pfizer, il y a 45 000 personnes quand même qui étaient enrôlées dans l'étude, un peu plus de 20 000 dans l'étude Moderna, et on voit qu'on a très très peu d'effets secondaires, et surtout des effets secondaires quand même très banals, et qu'au niveau de l'efficacité, c'est extrêmement prometteur. Pour l'instant, c'est encore peu de données, tout simplement parce que dans l'étude, on n'expose pas les volontaires au virus volontairement. Il faut attendre qu'ils soient contaminés dans leur vie quotidienne, en fin de compte. C'est pour ça que, par exemple, dans l'étude Pfizer, on a 45 000 participants, mais il n'y en a qu'une centaine qui sont contaminés par la COVID. C'est sans doute aussi parce que les gens qui acceptent de participer à une étude pour recevoir un candidat vaccin, c'est sans doute des gens qui croient en la science et qui donc font de la distanciation sociale et portent leur masque, donc ils ne sont pas trop exposés à la COVID. C'est pour ça que ça a pris du temps, mais on a quand même des données solides là.
Très intéressant. On est en discussion avec le docteur Julien Cavanna, qui est en poste dans un hôpital à Boston maintenant. Vous, là, avec ce que vous avez vécu pendant la pandémie, moi, je regarde les symptômes, là, les conséquences psychologiques, mentales pour plusieurs personnes, les enfants. C'est très difficile actuellement, nous dit-on, dans les écoles, à l'approche de la période des fêtes. Il y a des gens qui souffrent d'anxiété. On observe beaucoup de problématiques dans la société, au Québec, chez nous. Mais je me mettais à penser à vous par moment, ce que vous avez vu, expliquer à des familles des décès à l'urgence, remettre des bijoux à des gens qui sont là puis qui sont venus les chercher sans même voir leurs proches décédés. Vous avez tenté toutes sortes d'expériences pour les sauver. Est-ce que vous êtes un homme marqué? Est-ce que vous avez vécu vous-même des séquelles de tout ce qui s'est passé dans votre vie pendant la pandémie, Dr. Kavanaugh?
Oui, je crois qu'on s'en rend pas forcément en compte tout de suite quand on est dans l'action. C'est après coup qu'on réalise. Je crois que ça se manifeste aussi on est confronté au déni de certaines personnes qui disent cette épidémie n'existe pas ou c'est rien du tout. Et puis toutes les théories complot. Et je m'aperçois que sans doute lorsque je suis confronté à ça, ça me met en colère et parfois dans des proportions, je me dis mais c'est sans doute ça la trace de ce que j'ai vécu. Et puis là, c'est dur en ce moment de s'apercevoir que finalement on a vécu ce qu'on a vécu à New York en mars-avril. Et que à nouveau ça se produit dans d'autres coins des États-Unis. Ils sont en train de vivre ce que nous on a vécu en mars-avril, alors que ça aurait pu être évité. Ça, c'est vraiment rageant.
Vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Prenez-vous toujours des nouvelles du Québec? Suivez-vous beaucoup encore une fois l'évolution de tout ça au Québec, docteur?
Oui, pour moi, faire les différentes interviews que j'ai fait au tout début, c'était à un moment où j'avais l'impression qu'à New York, on prenait cette épidémie de plein fouet, mais que au Québec, qui est tellement cher à mon cœur, l'épidémie n'était pas encore là. Et donc, je me disais, si on arrive à faire passer le message aux Québécois que s'ils se protègent, s'ils se confinent, s'ils appliquent toutes les mesures de santé publique, on peut éviter cette épidémie au Québec, sauver des vies, mais ce serait extraordinaire. Donc c'était ça ma démarche au départ. Donc si ça a permis de sauver ne serait-ce qu'une vie, mais c'est fantastique.
Merci beaucoup d'avoir encore une fois ce matin accepté de prendre le temps. Je pourrais parler avec vous, vous le savez, hein, pendant des heures, tellement vous êtes intéressant, mais surtout, vous êtes d'une grande utilité, pas juste pour nous informer, mais certainement auprès de vos patients. Dr. Kavanaugh, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir entré en contact avec moi parce que je pensais à vous régulièrement. Je voulais pas vous déranger, mais je savais que vous étiez à Boston. Très content d'avoir renoué, puis on gardera contact à la radio et à l'extérieur également, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir, Michel. Merci.
Merci, au revoir. Docteur Julien Kavanaugh, neurologue, lui, il était au centre de la crise à New York. Et là maintenant, j'ai pas envie de dire que c'est plus calme, c'est quand même dans son milieu, il est revenu dans sa spécialité, vous avez entendu nous décrire ça, mais ça demeure un intervenant de première ligne. Et vous avez compris là, les contestataires, les complotistes, lui, là, il est médecin, il a vu des gens mourir de la COVID dans ses mains, dans ses bras. Puis après ça, il entend les discours des gens qui disent « Oh, on exagère, faut pas ci, faut pas ça. » Ça le met en colère. C'est probablement une séquelle de ce qu'il a vécu. Quelle utilité cet homme-là. Très content de lui avoir parlé encore une fois ce matin. 8h38, on va s'arrêter. Les arts et spectacles, ça s'en vient avec Tania. La chaloupe avec LP. Restez avec nous à Que l'Outaouais se lève.